Voilà, Jean-Bernard Leroy, voici mon exposé de juillet 2017. Exposé qui aura pour sujet le roi, entre autres, le roi Henri IV. Faire un résumé de l'histoire de France à la fin du XVIe siècle est plutôt compliqué. Les catholiques soutenaient la Ligue qui représentait leur religion et avaient reçu l'approbation du pape. Mais certains accusait la Ligue d'être trop près des jésuites et soutenue par les Espagnols qui avaient des ambitions politiques sur le territoire de la France. Henri III, qui avait succédé à son frère Charles IX, était un roi intelligent mais plutôt hésitant, marié à Louise de Lorraine de la même famille que les Guise. Après avoir lutté contre les protestants, il suivit le parti des modérés et signa en 1576 la paix de Monsieur, qui accordait aux protestants la liberté du culte, sauf à Paris, et ainsi que de nombreuses places fortes. Ce traité mit en fureur le duc de Guise, qui prit la tête de la Ligue, se montra intransigeant et chercha à entrer de force dans Paris. Ce fut la journée des barricades en 1588. Entre-temps, la mort du duc d'Alençon en 1584 avait fait d'Henri de Navarre un huguenot, le successeur légitime du royaume. Henri de Guise refusait un roi protestant. Il se serait bien vu à sa place comme roi catholique. Voyant en lui un rebelle, Henri III le fit assassiner après la journée des barricades. Il aurait dit en voyant son cadavre, « Il est encore plus grand mort que vivant. » Sixte Quint, le pape, voulait éviter à tout prix une scission entre catholiques et royalistes. Il voulait une réconciliation entre le roi et la Ligue. Mais il se trouvait devant une difficulté extrême, obligé de condamner comme hérétique celui qu'il considérait comme le roi légitime. Il ne pouvait envisager que la religion catholique ne soit que tolérée en France. Dans leur ensemble, pourtant, les Français restaient profondément et catholiques et légitimistes. Un parlementaire déclara quelques années plus tard, « Je n'aurais jamais dit vive le roi s'il l'avait dit auparavant, je crois à l'Église romaine. » L'assassinat du duc de Guise ne facilitait guère les choses. Le pape ne pouvait l'approuver. Il fallut attendre le retour d'Henri IV au catholicisme pour un retour au calme, accompagné de toute l'Église, prêtres et fidèles, sous l'autorité du roi. Henri IV était bon et très sensible. Certains disent l'avoir vu pleurer plusieurs fois. Il voulait le bien de tous. Par l'édit de Nantes, il a voulu ramener la paix dans le pays. Son protestantisme ne fut jamais radical. On assure qu'il croyait au Saint-Sacrement. Il savait que l'immense majorité des Français restaient catholiques. Il parvint à restaurer un royaume dévasté par la guerre civile. Il était près du peuple. Il souhaitait que chaque paysan pût mettre la poule au pot tous les dimanches. Le bon roi Henri reste un des monarques les plus populaires de France, ne serait-ce que dans les chansons. Le pape Clément VII s'est réjoui de son arrivée, bien que les Valois traînassent les pieds pour la promulgation dans le royaume des décisions du Concile de Trente, qui ne fut d'ailleurs jamais approuvé dans sa totalité. Le gallicanisme restait toujours latent. Il se trouva fortifié. Sur certains points, le roi s'était déclaré de droit divin, c'est-à-dire au-dessus du pape. Il le fit entre autres en ce qui concerne les abbayes qui restèrent dans ses mains. C'est le roi qui en désignait les bénéficiaires selon des critères qui n'avaient rien de religieux, ce qui ne tarda pas à entraîner l'état monastique dans une prompte décadence. Malgré tout, Henri IV protégeait le catholicisme dont il se rapprochait peu à peu. Il aurait même dit au bout de quelques années, « Je n'étais pas convaincu, maintenant je le suis. » Le pape Clément VII reconnaissait que jamais pape n'avait fait aussi bon ménage avec un roi de France. Certes, Henri IV était, comme on le dit maintenant, assez porté sur la chose. Ses maîtresses étaient nombreuses. On cite Gabrielle Détrée, pour laquelle il avait un attachement particulier. Avant de la retrouver après une longue absence, il lui demandait de ne pas se laver pendant quelques jours, car il aimait son odeur. Il aimait qu'elle sentît fin du gousset. Il était amateur de sensations fortes. On cite aussi ses entretiens avec le père Coton, un jésuite qu'il avait choisi comme confesseur. Le saint homme lui demandait de ne plus jurer, de ne plus dire « je renie Dieu ». Henri IV le remplaça par « je renie Coton », devenu « Jarny Coton », juron innocent qui figure toujours dans nos dictionnaires. Rabelais, dans ses écrits, disait « je renie Mahomet ». Henri IV rappela les jésuites, pourtant mal vus des ligueurs, qui leur reprochaient d'être trop liés à l'Espagne. L'histoire des jésuites fut très mouvementée, car leur excellence dans le domaine de l'enseignement et dans celui de la direction des âmes suscita maintes jalousies, avec comme conséquence de multiples calomnies. Ne citons que les jansénistes. Au XVIIIe siècle, leurs ennemis se sont ligués pour les faire disparaître. La franc-maçonnerie et la philosophie dite des Lumières ont conduit les rois Bourbons à les supprimer. Ils n'étaient plus admis que chez les chrétiens orientaux, non catholiques. Le pape Clément XIV a été conduit à les supprimer en 1773. Certains pères étaient mis au cachot, leurs œuvres et leurs biens étaient confisqués. Seuls les souverains non catholiques les ont hébergés, ce qui permit à Pie VII de les rétablir en 1814. Cela reste un paradoxe pour un ordre dont un des vœux était une obéissance inconditionnelle au souverain pontife. Différentes dévotions se propagèrent dans le XVIIe siècle, avec Port-Royal et des groupes très austères. À Paris, certains groupes avaient une vie très stricte, se levant tôt le matin, pratiquant la prière en commun avec les domestiques considérés comme faisant partie de la famille. Pendant ce temps, la cour affichait des mœurs plutôt relâchées. On parlait de fanfarons du vice. Ils plaisantaient volontiers sur la religion. Lorsqu'on parlait de péché mortel au maréchal de Bassompierre, ils répondaient « pas si mortel que ça, sinon je serais mort depuis longtemps ». Mais plusieurs se sont brusquement convertis avant d'entrer dans une vie sévère. Près de la cour d'Henri IV, il y avait les Tuileries, dont le palais communiquait avec un potager entretenu par des pères capucins. La piété laïque était profonde. Du jardin des Capucins, on pouvait voir un couvent bâti par une duchesse. Le mont Valérien était un lieu de pèlerinage comportant plusieurs ermites. Le XVIIe siècle avait un grand attrait pour la solitude, dont Montaigne parle comme une espèce de volupté. Il y eut beaucoup de saints. L'éclosion de belles vies, au lendemain de la Ligue. Les XVIIe et XVIIIe siècles furent des siècles éclatants pour la France. Le français était devenu la langue diplomatique, celle de la haute société. Le XIXe siècle continua quelque peu avant l'inexorable et désastreuse décadence du XXe siècle. Prions Notre-Dame pour que le XXIe siècle permette une renaissance. L'Église de France avait beaucoup à reconquérir. Il lui fallait lutter contre un certain penchant ou laisser aller, à tout remettre entre les mains du pouvoir royal, un excès d'indifférence qui finira par aboutir au despotisme de Louis XIV. Aux États généraux de 1614, le tiers-État était composé presque exclusivement de parlementaires. Il proposa comme doctrine fondamentale que le royaume, la puissance absolue et divine du roi, avec comme principe, premièrement, le roi tient son pouvoir de Dieu seul, deuxièmement, aucune puissance ne saurait priver le roi de sa couronne. Le pape n'avait plus le droit de le déposer. Troisièmement, les prédicateurs et théologiens sont tenus de soutenir ce droit. L'égalitarisme était renforcé, mais l'Église y restait opposée. Le mérite d'Henri IV a été de ne pas favoriser l'inclination qui portait les esprits à la servitude et de laisser l'Église se propager librement sous son règne. Signalons aussi la valeur morale des classes d'artisans signalées 50 ans plus tard par le jésuite Bourdaloue. Il disait que si certains crimes monstrueux sont le fait de la cour, ce n'était pas le cas des gens du moyen état, comme les artisans qui vivent encore de la loi de Dieu. Voilà ce que nous disons maintenant. Espérons que bientôt, les classes dites moyennes retrouveront le plaisir et retrouveront l'idée d'agir selon la loi de Dieu et non pas selon celle de Mammon, le dieu de l'argent. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon mois de juillet et à bientôt.